Et on reste sur Europe 1 avec Wendy Bouchard jusqu'à 11h. Bienvenue à tous, il est 9h.
Europe 1,
9h, 11h,
Wendy Bouchard.
Sur Europe 1, on est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question. Avec vous, ma chère Julie, bonjour.
Bonjour Wendy.
Avec tous vos appels et vos échanges au standard dès maintenant, on vous en rappellera les modalités dans un instant. Sur cette question d'actualité d'abord, à 2 mois et demi des élections européennes, nous allons revenir sur la tribune publiée hier en 24 langues dans 28 pays de l'Union européenne par Emmanuel Macron. Tribune offerte et adressée aux citoyens d'Europe. Dans quel but et avec quel écho on en parle? Le président qui pourrait se poser pour certains comme leader en Europe, lui faites-vous confiance? Du moins pour lui redonner du souffle à ce projet européen. Et irez-vous voter d'ailleurs le 26 mai dans cette perspective? On vous donne la parole, on vous écoute, Julie.
Au 39-21.
Et puis à 10h, là encore, vos témoignages seront éclairants pour parler de l'endométriose, une maladie chronique liée aux règles et qui touche une femme sur 10 à des degrés plus ou moins violents. Nous sommes en pleine semaine européenne de prévention. C'est un mal qui empoisonne la vie de ces femmes. Médecins et patientes, venez là encore vous exprimer au standard pour mieux comprendre cette maladie et surtout la manière, non pas vraiment de la soigner, mais au moins de la soulager. On est ensemble jusqu'à 11h sur Europe.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Pour commencer jusqu'à 10h, cette tribune aux citoyens d'Europe. Pourquoi cette méthode et pourquoi maintenant? Nous sommes avec Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman. Bonjour monsieur.
Bonjour.
C'est le principal centre de recherche français sur l'Europe et sur les politiques européennes. Et avec Gaël Sliman, président et cofondateur de l'Institut de sondage Odoxa. Bonjour,
bonjour.
Gaël Sliman. Tout a commencé pour cette offensive médiatique d'Emmanuel Macron au niveau européen dimanche soir avec une interview du président sur la Rai Uno, première chaîne d'information italienne. Alors, on a déjà senti le président tenter de renouer un peu les liens distendus avec l'Italie. Nous avions fait ici une émission, Julie s'en souvient, sur le « Je t'aime, moi non plus » entre la France et l'Italie. Premier petit pas de réconciliation en vue justement d'une réconciliation plus générale en Europe, Jean-Dominique Giuliani.
Oui, vous savez, le rôle traditionnel de la France, c'est quand même d'animer un peu le débat des idées en Europe. C'est pas facile, hein, puisqu'il faut parler à des peuples qui ont des traditions différentes, qui sont organisés avec des États différents, des intérêts du jour, quotidiens, qui sont apparemment différents. Donc il faut essayer de parler un peu d'objectifs de long terme. Je crois que c'est ça l'idée. Si on prend des lunettes européennes au lieu de prendre seulement des lunettes nationales, je crois que l'idée de la tribune d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de trouver quelques sujets d'intérêt commun pour l'avenir. Alors, la France a toujours été dans ce rôle, sauf peut-être sous le quinquennat précédent où l'agenda de politique intérieure était
plus centré sur, c'est ça, sur les questions nationales.
Mais en général, que ce soit François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, le général de Gaulle, les présidents français animaient le débat d'idées en Europe avec leurs collègues. Et là, je dois dire qu'avec François Hollande, on avait un peu perdu l'habitude parce que l'agenda national était privilégié. Et là, on voit que Emmanuel Macron veut endosser ce rôle. Alors, ça peut être commenté de diverses manières sur le plan intérieur, mais sur le plan européen, c'est le rôle traditionnel de la France et ça a des effets positifs. Oui. C'est-à-dire qu'on voit les Allemands bouger, on voit les Italiens perturbés. Ils veulent aussi, eux aussi, de bonnes relations avec leurs partenaires et ils sont plutôt en difficulté. Et on a tous en Europe, comme dans toutes les grandes démocraties, les mêmes difficultés.
Oui.
Difficultés économiques, angoisse face à l'avenir, etc. Donc
c'est
on va
pour
y
ça
revenir.
Qu'on peut trouver un socle et un terrain commun d'action et de réaction. Gaël Sliman, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une cohérence chez Emmanuel Macron. Depuis son élection, il cherche à réinventer l'Europe. Il l'a dit à plusieurs reprises avec des discours fondateurs à Quimper, à Athènes. Et là, il a choisi une méthode, on va dire, épistolaire. Cet envoi d'une lettre adressée aux citoyens d'Europe, je le disais, traduite dans 24 langues et envoyée à tous les pays d'Europe. Original, sur le fond.
Original à l'échelle européenne et puis qui rappelle quand même quelque chose qui s'était fait, hein, ça rappelle François Mitterrand, et donc ça crée une solennité, une présidentialité, si vous me pardonnez le néologisme, à un moment. Alors contrairement à Jean-Dominique Giuliani, moi mon rôle, parlant de l'opinion publique et de la façon dont les Français dans notre hexagone vont percevoir les choses, va consister à ramener les choses, le sujet à des aspects peut-être un peu plus pragmatique ou cynique, sur les intentions du président de la République. Le président de la République, il est dans une posture et dans une période plutôt bonne sur la scène intérieure. Après avoir passé 3 mois en enfer, dans l'enfer des Gilets jaunes...
Il reprend des points.
Il reprend des points de popularité globalement sur tous les sondages depuis le début de l'année. On voit en même temps que ses adversaires politiques, que ce soit ceux de la rue, les Gilets jaunes, ou les adversaires politiques des partis politiques d'opposition sont dans une mauvaise posture. Et effectivement, à un peu moins de 3 mois des européennes, du point de vue tactique ou stratégique pour l'opinion publique française, c'est plutôt bien joué de la part du président de la République que de reprendre ainsi la main. Par ailleurs, il y a une constante, vous avez raison Wendy, chez Emmanuel Macron, à ne pas vouloir laisser le terrain du discours sur l'Europe occupé par les anti-européens. Or, c'était une tendance lourde depuis, je ne sais même pas combien de temps, 10 ans, 20 ans, dans tous les grands pays européens et notamment en France, ce que l'on entend, sont ceux qui expliquent que l'Europe est la cause de tous les maux.
On en reparlait qu'au moment des élections, pour faire...
Oui, mais bref, plutôt de façon critique. Et même les partis qui étaient censés représenter une ligne pro-européenne avaient tendance à se taire sur la vocation et les ambitions de l'Europe. Et vous avez raison, Wendy, de rappeler que s'il y a une marque de fabrique spécifique d'Emmanuel Macron, ça a été depuis son élection, et même un peu avant, de vouloir endosser les habits d'un pro-européen assumé. Et c'est pour ça que je pense qu'il est, vous connaissez les dommages collatéraux, lui il est dans le bénéfice collatéral. À la fois il prend la parole à un bon moment pour marquer des points dans l'opinion publique en France, il poursuit, il trace son sillon du pro-européen qui s'assume, et puis malgré tout quand même, accessoirement, ça lui permet aussi d'occuper un espace laissé vacant par les autres leaders européens sur la scène européenne cette fois-ci.
Complètement, et ça on va y venir dans une seconde partie. De Jean-Dominique Giuliani, juste un mot sur l'adresse aux citoyens d'Europe et pas aux citoyens français et citoyens d'Europe. Là, il y a une démarche beaucoup plus globale aussi qui est intéressante de votre point de vue. Je ne sais pas comment ça a été reçu en Belgique, en Allemagne, en Italie, vous nous le direz, mais sur l'intention européenne avant d'être nationale.
Oui, je poursuis ce que Gary vient de dire à juste titre. Les opinions publiques européennes, elles sont favorables à l'Europe. Elles considèrent que l'Europe est un acquis. Mais comme les classes politiques partout en Europe, depuis des années, leur font porter le poids des échecs, en réalité, le discours est négatif.
Oui.
Mais regardez ce qui se passe, que ce soit en Grèce ou en Italie. Chaque fois que des partis anti-européens arrivent aux affaires, la première chose qu'ils font, c'est de ne toucher à rien. On reste dans l'euro et on reste dans l'Europe. En Italie, c'est caractéristique, mais on a vu aussi l'échec de Marine Le Pen à la présidentielle, combien lui a coûté sa promesse de sortir de l'euro. D'ailleurs, elle est revenue depuis, dessus. Donc, si vous voulez, il y a une ambivalence dans les opinions publiques. À la fois, elles considèrent que l'Europe est un acquis, donc il ne faut pas y toucher. Et là, Emmanuel Macron a raison de jouer sur cette carte. Et en même temps, elles veulent que ça change. Elles ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Elles voudraient que l'Europe soit plus active, plus protectrice, etc. Enfin, on peut trouver toute une série de qualificatifs. Et là, elles attendent qu'on en parle. Et donc, je crois que l'adresse du président est bien visée en regardant vers l'avenir et en assumant dans la constance qu'il a toujours été un Européen.
Et l'intérêt aussi, c'est que nous en parlons 2 mois et demi avant ce scrutin avec vous, Jean-Dominique Giuliani, avec Gaël Sliman, avec vos échanges et vos appels au Standard Europe 1. Je prends la liberté de m'adresser directement à vous. Voilà ce qu'écrit Emmanuel Macron dans cette tribune publiée hier dans Le Parisien et que vous retrouvez aujourd'hui et depuis quelques heures sur le site de l'Élysée. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous commentons jusqu'à 10h cette tribune adressée aux citoyens d'Europe par Emmanuel Macron, Wendy Bouchard. Vous nous direz ce que vous inspire ce plaidoyer, cette tribune adressée aux citoyens d'Europe. On vous a posé la question sur Facebook et vous allez nous donner les résultats dans quelques instants. Je donnerai également la parole à Philippe qui est avec nous au Standard Europe 1 au 39-21. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, est avec nous, ainsi que Gaël Sliman, cofondateur et président de l'Institut de sondage Odoxa. Lecture nationale, lecture européenne avec vous, messieurs, sur ce timing, dites tout ce que vous en pensez. Était-ce le bon moment de lancer la campagne des européennes? Parce que finalement, on y est, Gaël Sliman.
Oui, moi je pense que c'était le bon moment, puisque on est finalement à moins de 3 mois des élections. Et on a, donc ça, nous avons sorti un sondage la semaine dernière montrant le peu d'intérêt qu'ont pour le moment les Français pour le sujet et pour l'élection. Et c'est vrai que finalement, les Européennes, à part, si vous me passez l'expression, sur la course de petits chevaux putative, qui va
sur
être tête de
liste,
etc., on en parlait très peu.
Que donne votre sondage,
donc,
le dernier?
Il montrait qu'on avait une majorité de Français qui n'étaient pas très intéressés, au moins plus d'un sur deux qui n'étaient pas très intéressés par ces élections. Donc le risque d'avoir de nouveau une personne sur deux qui reste à la maison, qui ne se déplace pas, il est quand même très grand et très présent. Et de ce point de vue-là, choisir un moment où l'actualité nationale est un peu moins étouffante pour Emmanuel Macron, où il a un peu plus la main, encore une fois, avec le mouvement des Gilets jaunes qui s'essouffle, avec l'opinion publique qui souhaite maintenant que ce mouvement s'arrête, avec les points qu'il a marqués dans les sondages, c'était d'un point de vue tactique, stratégique, plutôt le bon moment pour le faire. Et puis, ça va permettre de remobiliser les camps, c'est-à-dire le camp des europhiles, qui pourra se retrouver
porté
derrière
par La République en Marche, hein, et
voilà,
par les Républicains.
Qui pourra se retrouver derrière Emmanuel Macron, mais tout le monde ne sera pas d'accord avec ce qu'a dit Emmanuel Macron. Beaucoup de critiques, on en reparlera sans doute, qui ont été faites par l'opposition, s'entendent tout à fait et vont retrouver un écho dans l'opinion publique française. Donc, ça permet de remobiliser tous les camps. Et vous le savez, une élection européenne où un électeur sur deux, au moins, ne va pas voter, il faut mobiliser. Donc, il ne s'agit pas d'être plus populaire ou moins populaire que l'adversaire. Peu importe que sur Facebook, dans votre consultation ou dans les sondages que nous réaliserons, les gens disent « je ne suis pas d'accord avec lui ». Ce qui compte, c'est que ça fasse bouger les lignes et que ça mobilise les gens qui veulent voter pour et peut-être même ceux qui veulent voter contre.
Julie.
Et puis c'est le bon moment aussi pour parler du Brexit. D'ailleurs, il commence par ça.
Exactement.
Il y a tout un paragraphe sur le Brexit qui serait un rejet sans projet. Il dit qu'on n'a pas assez expliqué aux Britanniques l'avenir de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, après ce Brexit, et que ça menace les autres pays, cette
Absolument.
Idée de rejet.
Absolument, et il parle d'urgence européenne à cette occasion-là, vous avez raison. Donc, s'il voulait le faire, c'était sans doute le meilleur moment pour le faire.
Et ce qui est intéressant, parce qu'on reparlera du Brexit, Julie a raison, c'est que il y a ces tentatives populistes, nationalistes dans les pays voisins, mais par exemple, pas un mot sur l'euro, sur le rejet de l'euro dans cette tribune, Jean-Dominique Giuliani. C'est un projet européen qui veut s'inscrire dans le positif. On ne remue pas ce qui fait débat, qui fait polémique, manifestement.
D'abord parce que l'euro n'est pas rejeté par les citoyens. Il est plébiscité. Il est majoritairement plébiscité. Près de 70% des citoyens européens, le plébiscite, y compris en France.
Ouais, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est
absolument.
Que souvent, on met en avant...
Et regardez ce qui vient de se passer en Italie, n'est-ce pas? Les deux partis qui font la majorité dans la coalition étaient contre l'euro et même contre l'Europe. Et ils arrivent aux affaires et quatre jours après, ils vont à Bruxelles pour dire on ne veut pas sortir de l'euro. Parce que le peuple italien ne veut pas sortir de l'euro. Les Grecs à qui on a fait subir une purge terrible, n'est-ce pas, pour rester dans l'euro et dans l'Europe, plébiscitent à 80% l'appartenance à l'euro. Et ça, c'est très
intéressant
parce que ça fait vieillir complètement les vieux clivages. Je dis ça parce que nous, on va reparler des vieux clivages nationaux pour y avoir une élection. Mais les vieux clivages, c'est quoi? Il y a des pros, il y a des anti. Non! Pour l'Europe, c'est un acquis. Il y a des gens qui sont pas contents de la manière dont fonctionne l'Europe. Mais plus personne ne critique l'Europe en tant que telle.
Non, ni la liberté de circulation, ni cette liberté culturelle.
Groupuscules d'extrême droite ou d'extrême gauche qui sont pour le Frexit et qui représentent même pas 1% de l'électorat. Mmh. On les a vus affichés sur l'Arc de Triomphe avec M. Asselineau, etc., des gens qui existent encore, mais qui n'ont aucun poids électoral.
C'est
d'accord. Donc, c'est comme ça que se pose la question européenne. Et je crois que la tribune d'Emmanuel Macron permet peut-être d'avoir un débat de fond, parce qu'il y a de vrais débats à avoir sur la place de l'Europe face aux États-Unis, alliance, pas alliance, face à la Chine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit se claquemurer? Est-ce qu'on doit ouvrir les portes? Il y a plusieurs thèses. Il y a Jean-Pierre Raffarin qui dit qu'il faut travailler avec la Chine plutôt qu'avec les États-Unis. Donc ça, c'est de vrais sujets. Et les gens sont très... Les citoyens, en fait, voient passer toutes ces informations et n'ont pas de réponse, pas d'explication de la part de leurs hommes et de leurs femmes politiques. C'est ça qu'ils veulent.
Est-ce que ces débats-là agitent aussi les opinions publiques nationales en Allemagne, en Italie, en Grèce?
Mais bien sûr, l'immigration, c'est ce problème-là. C'est les relations avec l'Afrique, c'est les relations avec nos voisinages. Tout le monde comprend que c'est pas seulement fermer les frontières, d'ailleurs, qu'on n'y arrive pas, en réalité. Donc, est-ce qu'on le fait ensemble? Est-ce qu'on doit avoir une immigration légale? Dans quelle proportion? Comment est-ce qu'on doit avoir des quotas, pas des quotas? C'est ces sujets-là que la politique n'adresse plus depuis longtemps et qu'on va essayer de réintroduire dans ce débat. Et moi, je trouve ça plutôt positif parce que ce sont les vraies questions. Vous voyez, je fais des conférences très régulièrement en province. Les questions que me posent les gens quand je leur parle d'Europe, c'est, mais alors, est-ce que mes emplois, l'emploi de mes enfants va-t-il être remplacé remplacer par un robot? Est-ce qu'on va laisser les GAFA faire la loi? Est-ce que je serai fiché chez Facebook et Google, etc. Ça, c'est des vrais sujets et qui posent la question de qu'est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut être une grande puissance à la fin du
Bien
siècle
sûr.
Dans les trois grandes puissances qui comptent?
Sur la liberté, sur l'emploi, sur la sécurité aussi de ces six citoyens. On va y revenir sur ces débats de fond, justement, que cette tribune permet de remettre en lumière avec Gaël Sliman, qui va s'exprimer dans un instant pour l'Institut Sondage Odoxa et pour cette lecture aussi nationale du sujet. Jean-Dominique Giuliani et Philippe, auquel je donne la parole juste après. Petite pause, Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La question Facebook, mais on va la poser tout de suite. Le plaidoyer d'Emmanuel Macron pour l'Europe, vous a-t-il convaincu? Non à 73%. Alors on va commencer par quelqu'un qui soutient Emmanuel Macron, Thomas, qui nous dit il est convaincant quoi qu'il arrive. Pour les autres commentaires, ça se gâte un peu. Gilles, il faudrait peut-être régler les problèmes chez nous d'abord. Viviane, tout le monde est contre cette Europe des riches contre les pauvres. Michael nous dit les gens n'ont même pas lu ce plaidoyer. Cette lettre, voilà, j'allais dire. Si seulement ils pouvaient voter en conséquence de cause. Et enfin, Alain, j'aime trop l'Europe pour ça.
Oh, alors, moi, j'aimerais juste qu'on revienne sur les propos de Gilles à l'instant. Il faudrait peut-être régler les problèmes chez nous d'abord, Gaël Sliman. C'est d'abord, c'est pas du tout incompatible. Et puis, précisément aussi, il y a un certain nombre de problèmes ou de problématiques qui sont liés à l'Europe et qu'on peut discuter au niveau européen.
Oui. Alors, je suis pas étonné par ce qu'on observe sur votre consultation, qui n'est pas un sondage,
non,
mais qui est
une
consultation. Et donc, je suis pas étonné par ce qu'on observe, parce que c'est sans doute ce qu'on lira aussi dans les sondages, qu'une majorité de gens dit soit ne pas être d'accord, soit ne pas être convaincu, pas forcément par ce qu'a dit Emmanuel Macron, et peut-être pas parce que ce seraient des problèmes européens plutôt que français, puisque vous avez raison Wendy, les deux se télescopent. Mais plutôt parce que certains, dans l'opposition, l'ont déjà fait, ils peuvent estimer qu'il y a une forme de contradiction à voir un Emmanuel Macron, entre guillemets, de droite au niveau de la politique économique qu'il mène en France et que la gauche qualifie de peu protecteur, sa politique peu protectrice, vanter la protection sociale au niveau européen. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est intéressant parce que ça lance le débat sur les élections européennes entre les européistes, ceux qui sont plutôt en accord avec ce que souhaite mettre en place Emmanuel Macron, et puis ceux qui le contestent, qui vont pouvoir aussi se positionner, mais pas pour critiquer le bien fondé des orientations données par Emmanuel Macron. Je pense que là-dessus, il n'y aura pas beaucoup de débat en réalité.